partout au Québec. Partout au Québec. Les sujets de l'heure. Éditorial. Entrevue. Vos commentaires. Au réseau Cogeco, vous écoutez Mon Grain PM.
Bonjour tout le monde, nous sommes le 5 août 2020. Je n'ai pas pu m'empêcher ce matin, en ouvrant les yeux et en regardant les infos, en consultant les journaux, de me dire, tout le monde ne se lève pas du même pied ce matin. Nous autres, on avait quelques branches qui jonçaient le sol, des feuilles, des restants de pluie, inondations, selon les régions du Québec, qui ont été touchées par la queue de cette tornade qui a touché la côte américaine. Mais d'autres, ce matin, pleurent des pertes de vie en grand nombre et une ville sous la désolation et des images d'horreur, alors qu'hier à Beyrouth, le 4 août, donc hier, une explosion, une conflagration exceptionnelle faisait en sorte qu'une partie de la ville était détruite et on est toujours à la recherche de blessés et on est toujours à la recherche de corps qui seraient sous les décombres. C'est une situation qui est très particulière et aujourd'hui, l'horreur laisse place un peu à la colère de la population, se disant comment il se peut que autant de tonnes, 2750 tonnes d'un produit hautement explosif aient pu être mis, dans des entrepôts, dans le port de Beyrouth, et faire en sorte qu'aujourd'hui, après des mois, cette chose fasse ce désastre-là. En même temps, la position est stratégique parce que le port de Beyrouth, c'est la porte d'entrée d'à peu près tous les produits et services nécessaires et requis pour la vie de cette ville qui déjà connaît une crise incroyable depuis des années, où l'inflation est terrible, où le chômage est au-delà de 50 % et où il est difficile de joindre les deux bouts. Et voilà que s'ajoute à ce drame économique et social ce drame épouvantable de perte de vie en grand nombre et la destruction quasi totale de cette ville-là. Qui suis-je pour en parler à distance, si ce n'est de répéter ce que j'ai vu et d'y réagir par ma propre émotion? Mais qu'en est-il des gens qui y vivent là-bas? Et pour Cathy Saillard, qui rentrait du bureau hier lorsque l'explosion a retenti, près de 24 heures après la tragédie, quelle est la situation sur place? Elle est avec nous et je veux m'entretenir avec elle. Cathy Saillard, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous sommes à distance. On sent évidemment un délai dans la communication. Je pense que les gens nous pardonneront évidemment le rythme de l'entretien que nous allons avoir. Comment s'est réveillé Beyrouth ce matin?
Sous le choc. Un choc. Et je crois que le mot choc est très faible.
C'est évidemment l'horreur ce matin de voir et de réaliser.
Ah, c'est... Comment expliquer? Je fais l'expression, excusez-moi, je suis assez émue parce que ça fait 24 ans que c'est très difficile pour moi, mais pour le peuple libanais, parce que je connais beaucoup de Libanais, je suis régulièrement au téléphone, j'entends ce qu'ils disent, on partage la colère, finalement, oui, c'est une colère qui est arrivée aujourd'hui. Et le mot triste, choc, quand vous les entendez qui disent, j'imagine même pendant la guerre avec Israël, on n'a jamais vécu ça.
Le Liban...
J'ai entendu la mère d'une sœur.
Excusez-moi, le Liban... Excusez-moi, juste une autre question. Le Liban et Beyrouth ont déjà un genou à terre, au sol, parce qu'il ploient sous les problèmes sociaux, les problèmes de guerre, les problèmes économiques. Et là, véritablement, c'est la désolation la plus grave que l'on ait connue. Est-ce qu'il y a possibilité d'espoir? C'est la communauté internationale qui peut régler votre problème, c'est pas vous.
Oui, alors moi je ne suis pas libanaise, hein. Je suis française, je suis ici pour le travail, parce que je suis dans le risque international. C'est un pays qui a mis en lieu plein d'espoir, un potentiel énorme pour le Libanais, pour la diaspora, pour l'international. Oui, aujourd'hui, le Liban a besoin de l'international avec la catastrophe d'hier. on ne peut pas faire sans l'international. Le Liban ne peut pas faire sans l'international. Et je profite en même temps de passer un appel à l'international. Le Liban a besoin de nous, la diaspora libanaise, a besoin de vous, de tout le monde. Mais je dirais qu'avant, on va dire, il y a un avant et un après 5 août. Avant le 5 août, la situation, certes, elle était économique, elle est sociale. Ce n'est pas le premier pays qui passait par cette période difficile. On a connu d'autres pays qui sont passés par cette crise économique. Mais à partir d'hier, le Liban va écrire un nouveau chapitre. Elle va écrire avec tout le peuple qui est d'une résilience extraordinaire. Je vous avoue franchement, j'ai vraiment peine à trouver les mots ce soir. J'ai aussi une très grosse colère parce que ce n'est pas anodin ce qui s'est passé hier.
Ce n'est pas anodin et
c'est
de
pas
là.
Pas seulement 2700. Non, ce n'est pas anodin. C'est pas 2700 tonnes qui sont là depuis 6 ans dans un hangar. Et que hier à 18h, alors qu'on sortait d'un lockdown de 5 jours, puisqu'on nous avait remis en reconfinement à cause du Covid-19, on nous avait réouvert, on va dire, hier et aujourd'hui, et pour refermer le pays pour 5 jours, pour essayer de maîtriser cette deuxième vague de Covid. Et là, hier, il y a eu quoi? Beaucoup de questions dans la tête des Libanais.
Dites-moi, est-ce que la population, pour les contacts que vous pouvez avoir depuis les 24 dernières heures, s'est fait un scénario de ce qui s'est produit. Une négligence dans l'entreposage pendant des années de produits hautement explosifs ou encore un geste délibéré pour provoquer ce désastre?
C'est plutôt un geste délibéré. Parce que quand on regarde et qu'on parle et que l'on partage, j'étais encore tout à l'heure avec quelqu'un qui était sur les lieux hier, j'ai vu des photos d'un transitaire qui a pris les photos. Non, bien sûr que c'est un acte libéré, ce n'est pas un accident. Bien sûr que non.
Est-ce que déjà, vous me dites que c'est une population très résiliente, est-ce que déjà on se tourne les manches et on se met au travail pour reprendre une vie, pour tenter de redevenir à une normale si possible, parce que c'est dramatique ce qui se passe.
Alors, elle est plutôt dramatique, dire normalement, parce que je pense qu'il va falloir au moins plus de 2 semaines vu que le pays vient d'être en pays d'urgence pour 2 semaines. Dire que oui, ce matin, tout le monde a rebroussé les manches pour nettoyer les rues. Il faut quand même savoir que le downtown, donc cette fameuse partie de downtown, c'était quand même la partie du centre névralgique et nouvelle qui avait été reconstruite pendant les années 1995-2000. Il ne reste rien. Vous avez un quartier qui est collé à Shrafieh. Je parlais encore tout à l'heure avec le frère du propriétaire de l'appartement où je suis. Qui a passé du l'hôpital par les blessures. Il n'y a plus d'appartements. Les bureaux ont été
détruits.
Tout a volé en éclats.
Oui.
Détruits, ça a été pulvérisé. Voilà le terme, c'est pulvérisé. Moi, j'habite sur les hauteurs de Beyrouth. L'appartement qui est en tout chez moi, les vitres, c'est pulvérisé. Moi, je n'ai rien eu par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un Dieu. Imaginez qu'on a entendu les détonations jusqu'à Chypre.
C'est 80 kilomètres quand même des côtes. Hein. Cathy Saillard, merci beaucoup. Je sens énormément d'émotion, de compassion avec la population libanaise et les gens de Beyrouth. Merci de votre témoignage et de nous traduire, évidemment à distance, ce que vous pouvez partager comme genre de vie au lever du jour et à la fin de la journée aujourd'hui. Merci beaucoup, Cathy Saillard. Merci, au revoir. Sans plus tarder, on va parler à Christian Rabat. Christian Rabat est porte-parole du comité de soutien à la Croix-Rouge libanaise et les besoins sont criants et énormes. C'est Christian Rabat, je m'excuse de la prononciation. Bonjour, M. Rabat.
Oui, bonjour. Bonjour, M. Mongrain. Merci de l'opportunité.
Alors, tout manque présentement. On a besoin de tout, ma foi, et tout, c'est tellement grand On commence par quoi? Quels sont les besoins immédiats?
Ben, je dois commencer par vous dire que le Liban a passé par, malheureusement, différentes crises, guerres sectaires ou autres, mais cette fois-ci, le désastre qui n'a pris que quelques secondes, il a pris l'ampleur de toutes les guerres confondues, si je peux me permettre comme ça. C'est donc irréel. J'écoutais Mme Saya tantôt parler de la résistance, pardon, de la résilience du peuple libanais. Je pense effectivement qu'ils ne s'en relèveront pas tout seuls. Alors, c'est pour ça, on devrait peut-être regarder qu'est-ce que la diaspora pourrait amener, et c'est vraiment le message que je voudrais marteler à travers ma communication. Et donc, pour revenir à votre question, les besoins, effectivement, sont extraordinaires. Parce que vous devez savoir, M. Mongrain, vos auditeurs ne le savent peut-être pas non plus, c'est que la Croix-Rouge libanaise a différents mandats. Ici, au Québec, on a Urgence Santé qui s'occupe du transport des blessés et autres besoins de transport de malades, ce qui est pris en considération, en charge par la Croix-Rouge libanaise. Et tous étant des volontaires, j'insiste à le dire, il y en a à peu près pour 7 000. Les chiffres que je ne les connais pas tous, mais je peux vous dire qu'ils sont tous des volontaires. Moi-même, personnellement, j'étais en charge de Beyrouth à un moment donné. J'étais chef secteur et je sais ce que c'est le travail acharné des équipes de secours. On les appelle les EMTs, Emergency Medical Teams. Alors, ceux-là sont vraiment au front. C'est eux qui sont les premiers répondants. Donc, on commence par eux. Les besoins sont astronomiques parce qu'ils ont dû gérer différentes crises. Vous l'avez mentionné tantôt, sociales. Il y a eu la révolution en octobre. Après ça, il y a eu, bien entendu, la COVID qui n'a pas fini de se résorber avec toute l'organisation qui va autour de la COVID. Et actuellement, ce grand coup, ce désastre, cette catastrophe, de quoi elle a besoin? Eh bien, j'ai commencé donc par dire le EMTs. Là, on passe à l'autre étape qui sont les transports, les évacuations de certains hôpitaux. Les hôpitaux sont débordés et là, il faut assurer les transports d'un hôpital à l'autre pour dégager les hôpitaux de Beyrouth qui, des fois, ne sont pas, sont encore une fois débordés ou simplement, ils ont été détruits en partie.
Oui. Je sais que la Croix-Rouge est un organisme apolitique. Il ne joue pas sur cette scène de la politique, mais il demeure un fait, c'est que nous savons, et il ne faut pas être aveugle, qu'il n'y a pas de gouvernance dans ce pays qui permette de penser à structurer un redémarrage.
Est-ce que vous parlez de la Croix-Rouge comme telle? Je peux vous dire que...
Non, je parle du gouvernement.
Vous avez raison. J'allais vous dire simplement, le focus de ma conversation va être autour, parce que vous allez me permettre de ne pas du tout
bien
faire
sûr.
Mes commentaires politiques.
Je ne suis
pas dans la politique, je suis dans la Croix-Rouge. Et à la Croix-Rouge, on est vraiment... C'est la neutralité pure et dure.
Je sais. Et de là ma question. Donc, vous devrez prendre des initiatives sans égard à quelque support gouvernemental ou politique que ce soit.
Vous avez entièrement raison. C'est exactement ça, le noyau. Donc, et ça, vous pouvez vous assurer que la Croix-Rouge libanaise, durant toute son existence, j'ai mentionné plusieurs guerres, a été toujours le paragon, c'est-à-dire de tout ce qui s'appelle humanité. Les 7 principes sont conservés de A à Z. Et je vous défie de voir un défaut à ça à la Croix-Rouge libanaise actuellement. Bref, c'est pas ça le but. Vous m'aviez posé une question, je vous reviens, sur les besoins. Actuellement, le sang est un élément très important. Il y a eu beaucoup d'appels et les gens sont au rendez-vous. Ça, je crois qu'il y a un bon apport de la population libanaise pour le don du sang, qui encore là, ce n'est pas un peu comme ici, Emma Québec, c'est la Croix-Rouge libanaise qui s'occupe, donc budget pour le sang. Nouvellement, il y a sur les réseaux sociaux, maintenant, la Croix-Rouge libanaise diffuse la construction de tentes, donc un peu ce que la Croix-Rouge canadienne fait ici. La Croix-Rouge canadienne, comme vous le savez, à partir du moment où un sinistre se passe, eh bien, le branle-bas de compas fait qu'on est capable...
Pour les sans-abri, bien sûr.
Absolument. Alors, on prend maintenant les sans-abri. Deuxième niveau. troisième niveau, au quatrième, pardon, niveau d'intervention, c'est certaines fois dans les régions éloignées, les cliniques mobiles, la distribution, médicaments et soins dans les régions éloignées. Tout ça était dans un budget de plusieurs dizaines de millions de dollars qui, malheureusement, avec les circonstances qu'on connaît, financières, monétaires et gouvernementales et certaines faillites qui ont eu lieu, le gouvernement a arrêté, je ne sais pas si c'est pour une période temporaire, mais à tout le moins, depuis le mois de janvier ou décembre 2019, les fonds qui devaient être destinés à la Croix-Rouge libanaise par le ministère de la Santé s'est arrêté.
Excusez-moi parce que le temps file, de là l'importance de cet appel à la générosité de la diaspora, c'est-à-dire des Libanais qui sont à l'extérieur du Liban, pour soutenir évidemment l'effort nécessaire d'une reprise de la population.
Voilà. Je vous remercie de me donner cette tribune-là pour faire l'appel à toute la diaspora libanaise. Je ne pense pas que même malgré aussi, Mme Saïa le disait, la résilience du peuple, je ne crois pas que financièrement ils seront capables sans la diaspora. Donc mon appel est vraiment pour donner à, on l'appelle le soft appeal, c'est un appel qui est fait à la Croix-Rouge canadienne. Donc j'insiste, les dons vont à la Croix-Rouge libanaise par le biais de la Croix-Rouge canadienne. Donc, tout dollar sera acheminé tel quel à la Croix-Rouge libanaise. Les gens se posent des questions. Est-ce qu'on passe par la corruption du gouvernement libanais? La réponse est non. Nous avons des, boots on the ground. On
a vous avez des gens sur le terrain qui s'assurent que le dollar, que l'argent se rend au service que la Croix-Rouge octroie aux gens. Merci beaucoup, Christian Rabat, porte-parole du comité de soutien à la Croix-Rouge. Votre message a bien été entendu. Nous allons le réitérer également. Et demain, j'ai l'intention de m'entretenir avec le président canadien de la Croix-Rouge, M. Corrad Sauvé, que vous connaissez sans doute. Et nous poursuivrons justement dans cet effort de soutien parce que au Québec, il y a énormément de ressortissants qui sont libanais et d'origine libanaise et qui certainement répondront volontairement à l'appel. Merci, M. Rabat.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité.
Pas de problème. Merci beaucoup.
Bon courage à la diaspora.
Oui, tout à fait. Bon courage à tout le monde qui ont des familles là-bas, des connaissances et des amis, bien sûr, et qui sont des gens importants dans la vie même du Québec. Au retour de la pause, on va parler de cette fameuse substance qui est le nitrate d'ammonium. Est-ce qu'on en a ici au pays? Comment c'est géré? Comment ça marche? Est-ce qu'on est, nous aussi, assis sur une bombe? On revient tout de suite après la pause.